Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 mai 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Burundi, confusion hier soir à Cibitoke, où des tirs soutenus ont retenti.
En Guinée, l'opposition ne voit aucune avancée dans les instructions du président Condé pour ouvrir un dialogue sur le calendrier électoral contesté.
En Côte d'Ivoire, Pascal Affine-Guessan, président du FPI, a été entendu hier par un juge dans l'enquête sur l'assassinat du général Robert Gaye.
En Libye, le premier ministre, reconnu par la communauté internationale, échappe à une tentative d'assassinat hier à Tobrouk.
Appel de Greenpeace à la Chine, à l'Union européenne et aux États-Unis pour des enquêtes sur les compagnies qui pourraient importer du bois coupé illégalement en RDC.
Arrestation de plusieurs hauts responsables de la FIFA ce matin en Suisse. Ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Des tirs soutenus ont retenti pendant près d'une heure mardi, peu avant la tombée de la nuit, dans le quartier de Cibitoke, fief de la contestation à Bujumbura contre la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza en troisième mandat. Selon le correspondant de l'AFP sur place, il était impossible de connaître l'origine des séries de coups de feu très rapprochés, mais la population évoquait une descente des Imbonerakure, la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD, au pouvoir et qualifiée de milice par l'ONU. Les précisions d'Henri Francisque.
Un photographe étranger a indiqué avoir vu un mort et deux blessés par balle dans le quartier. « Ce sont les miliciens du parti qui tirent », a affirmé un jeune de Cibitoke qui dit les avoir vus. Ils sont vêtus en civil et ont des armes. Plusieurs habitants ont indiqué à l'AFP avoir été prévenus via des amis ou des voisins que des jeunes partisans du pouvoir étaient descendus du quartier voisin de Kamenge, fief du CNDD-FDD, sur Cibitoke. La situation était extrêmement confuse. De nombreux jeunes couraient à travers les ruelles, partant de l'avenue principale en direction de l'origine présumée des tirs, pour tenter d'empêcher l'avancée des miliciens, tandis que d'autres fuyaient la zone en sens inverse. Certains postés au coin de maisons et armés de pierres tentaient d'apercevoir les tireurs. Au moins une explosion de ce qui semblait être une grenade a été entendue par le journaliste de l'AFP, qui a vu plusieurs balles traçantes traverser la rue principale du quartier, très légèrement au-dessus des toits. Les jeunes de Cibitoke avaient dressé à la hâte une barricade à l'extrémité de l'avenue principale avec un morceau d'arbre enflammé. Une autre barricade enflammée était visible au loin, à l'autre bout de l'avenue. À Cibitoke, les tirs avaient cessé à la tombée de la nuit quand le journaliste de l'AFP a quitté les lieux.
En Guinée, l'opposition ne voit aucune avancée dans les instructions données par le président Alpha Condé à son gouvernement d'ouvrir un dialogue sur le calendrier électoral contesté. M. Condé a demandé dans une lettre publique au chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, d'ouvrir un dialogue avec l'opposition pour favoriser l'organisation d'élections présidentielles et communales transparentes et équitables. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition.
Nous allons nous concerter davantage et d'ici vendredi prochain, nous allons donner une réponse écrite au ministre de la Justice quant à notre participation et surtout aux conditions d'ouverture du dialogue. Moi, je vous rappelle que nous, notre opposition est une opposition qui a toujours été demandeuse de dialogue. C'est pour avoir un dialogue avec le gouvernement et avec sa mouvance politique que nous avons fait des manifestations. C'est pour avoir ce dialogue qu'il y a eu des morts. Je vous rappelle qu'il y a eu aujourd'hui 64 morts depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, qui est mort par balle et par les forces de l'ordre dans le cadre de manifestations pacifiques. Sans pour autant qu'aucune procédure judiciaire ne soit à ce jour engagée pour identifier les auteurs, encore moins, et traduire devant les tribunaux. Donc, nous sommes demandeurs de dialogue, et dès que l'opportunité va se présenter, nous allons sauter sur le dialogue de manière à arriver par la concertation, la solution de la crise guinéenne.
Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne, joint par Nicolas Pinault.
En Côte d'Ivoire, Pascal Affine-Guessan, président du FPI, a été entendu hier par un juge dans l'enquête sur l'assassinat du général Robert Gaye. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Monsieur Affine-Guessan était premier ministre au moment des faits. Le général Robert Gaye a dirigé la junte militaire après le coup d'État du 24 décembre 1999 qui avait renversé le président Henri Konan Bédié. Il avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Le général Gueye, âgé de 61 ans, avait été assassiné, ainsi que son épouse, le 19 septembre 2002, jour du coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo, qui avait entraîné la prise du Nord et de l'Ouest par une rébellion. Robert Gueye avait été accusé par le régime Gbagbo d'être derrière le putsch manqué. Les partisans de Gueye accusaient le pouvoir d'avoir tué leur chef, ce que le camp Gbagbo a toujours nié. Aujourd'hui, le petit parti de Gueye, l'UDPCI, est allié au président Alassane Ouattara, candidat à sa réélection en octobre prochain. Pascal Affi-Nguessan vient d'être désigné candidat du FPI à la présidentielle et Laurent Gbagbo est en prison depuis fin 2011 à La Haye.
En République centrafricaine, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a exhorté hier la communauté internationale à verser l'aide promise pour financer les élections d'ici la fin de l'année. Jean-Roger Bion.
À l'ouverture d'une conférence sur l'aide à la Centrafrique à Bruxelles, Mme Catherine Samba-Panza a déclaré que l'ONU avait estimé les besoins de la Centrafrique à 613 millions de dollars pour 2015, mais seulement 21% de ce montant a été versé. Elle a malgré tout assuré que les élections se tiendront avant la fin de l'année 2015. Le forum de Bangui a décidé le 11 mai de reporter les élections présidentielles et législatives, initialement prévues avant le mois d'août, mais Florence Limbio, ministre de l'économie, précise qu'il n'y a pas assez d'argent pour les financer car il manque près de 17 millions de dollars. La secrétaire d'État française au développement, Annick Girardin, a appelé tous les bailleurs de fonds à mettre la main à la poche. La Commission européenne a annoncé une rallonge de 10 millions d'euros, portant à près de 100 millions son aide prévue en 2015. La France a promis 35 millions d'euros. Au total, les engagements d'aide à la Centrafrique se chiffrent à 380 millions d'euros, selon la Commission européenne.
La présidente donc de la transition centrafricaine, et c'était un reportage de Jean-Roger Bion. Maintenant, la justice nigériane a ordonné hier la libération d'un sénateur menacé d'extradition vers les États-Unis pour complicité dans un trafic de stupéfiants. L'agence antidrogue du Nigeria a refusé de se plier aux ordres de la justice, Bagasi Koura.
Buruji Kachamou avait été élu il y a 2 mois au Sénat nigérien. Il avait été inculpé en 1998 par un tribunal de l'Illinois ici aux États-Unis pour complicité de trafic d'héroïne. Le sénateur Kachamou avait été assigné à résidence samedi par l'agence antidrogue en attendant son audience d'extradition. Hier, Ibrahim Bouba, juge de la haute cour de Lagos, a ordonné aux agents de quitter la maison du prévenu. Mais l'agence antidrogue répond qu'elle n'a nullement l'intention de se plier à cette décision. Kachamou avait été arrêté en 1998 en Grande-Bretagne. Il avait réussi à convaincre les autorités britanniques que ce trafic de drogue concernait son frère et que les enquêteurs américains confondaient les deux hommes. Londres l'avait relâché en 2003 et Kachamou était rentré au pays. Il était devenu l'un des grands financiers du PDP. Ce parti va quitter le pouvoir vendredi avec la prestation de serment de Muhammadu Buhari, le président élu qui avait battu campagne contre la corruption.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, Abdullah Al-Thani, le premier ministre reconnu par la communauté internationale, a échappé hier à une apparente tentative d'assassinat. Selon un porte-parole du gouvernement, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur son véhicule alors qu'il quittait le siège du Parlement à Tobrouk, dans l'est du pays.
La Maison-Blanche estime que la mission de l'armée irakienne pour reprendre Ramadi aux mains du groupe État islamique et chasser ses militants de la province d'Anbar indique clairement la volonté des Irakiens de se battre. Cette opération a commencé hier.
Enfin, un ressortissant yéménite a plaidé coupable hier devant un tribunal fédéral à New York pour complot visant au meurtre de citoyens américains et soutien matériel à une organisation terroriste. Il risque la prison à vie quand sa sentence sera prononcée en septembre.
Et maintenant, la Minute Écho avec Claire Morin-Gibourg.
À Abidjan, succès de l'ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement qui fête ses 50 ans et son retour dans la capitale ivoirienne après 10 années de délocalisation à Tunis. Le président sortant, Donald Kaberuka, s'est fait ovationner à la demande d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, très positif sur le bilan de la BAD.
Nul ne saurait contester le bilan positif de la Banque africaine. Elle a contribué entre autres à la réduction de la pauvreté et le chômage en Afrique, plus particulièrement l'intégration de notre jeunesse dans le tissu économique de nos pays. Que de progrès ont donc été accomplis au cours de ces 50 dernières années.
Niamey, la capitale nigérienne, et les grandes villes du pays sont privées d'électricité depuis plusieurs jours en raison de fortes perturbations dans la fourniture de courant électrique à partir du Nigeria voisin. Alassane Halid, le directeur général de la Nigelec, s'est exprimé à la télévision publique pour exprimer les raisons des problèmes. Il y a des grèves au Nigeria, s'est-il justifié. Dès qu'il y a perturbations sur le réseau électrique nigérian, nous n'arrivons pas à faire face à la situation au Niger. Enfin, l'ONG Greenpeace a appelé hier les États-Unis, l'Europe et la Chine à boycotter le bois coupé illégalement dans le nord de la République démocratique du Congo par la société forestière Contrefort, l'accusant de nuire à l'environnement, et ce, jusqu'à ce que la légalité du bois puisse être assurée.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Nicolas, commençons par cette nouvelle qui nous vient de Suisse, où la police a arrêté plusieurs hauts responsables de la FIFA aujourd'hui, en rapport avec des inculpations que le département américain de la justice devrait annoncer publiquement ce mercredi contre plus de 10 officiels et qui incluent des accusations de corruption. Ces inculpations sont le résultat d'une enquête de plusieurs années. Les arrestations ont eu lieu tôt ce matin à Zurich, au moment où les officiels de la FIFA se réunissent pour, entre autres, élire leur président. Sepp Blatter, 79 ans, partait favori pour rester à la tête de la FIFA qu'il dirige depuis 1998. Il ne figure pas parmi les personnes qui doivent être inculpées. Ces inculpations constituent les dernières en date des allégations de corruption portées contre la FIFA sous le leadership de Sepp Blatter. L'attribution des Coupes du Monde de 2018 et 2022 a mené à une enquête de la commission d'éthique qui, en novembre, avait conclu qu'il n'y avait que des violations limitées de l'éthique et pas de preuves suffisantes de pots de vin. La Russie abritera la Coupe de 2018 et le Qatar celle de 2022. Hervé Renard, le nouvel entraîneur du LOSC, a signé mardi à Lille un contrat de 3 ans sous ses nouvelles couleurs.
Ah oui, c'est officiel, c'est fait. Hervé Renard est le nouvel entraîneur de Lille. Le nouveau coach du LOSC a participé hier, peu après son arrivée, à sa première réunion de travail avant de signer un contrat de 3 ans en faveur du club lillois. Dans la foulée, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a donné sa première conférence de presse. On l'écoute.
J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup plus que ce que je pouvais y espérer. Le fait de gagner 2 Coupes d'Afrique en 3 ans m'a fait réfléchir et me faire poser cette question. Est-ce que je peux faire mieux sur ce continent? Et je pense que la réponse est vite trouvée, c'est-à-dire que c'était pas possible de faire beaucoup mieux. Donc j'ai préféré me tourner vers un nouveau challenge. Et un nouveau challenge, c'était un club ambitieux avec des infrastructures à la hauteur de ses ambitions. Et quand le LOSC m'a contacté, ouais, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant et de passionnant.
Hervé Renard, le nouvel entraîneur du LOSC.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
Oui, Novak Djokovic, numéro 1 mondial sur la terre battue, s'est qualifié pour le deuxième tour malgré un temps faible au deuxième set face au Finlandais Jarkko Nieminen, battu en 3 manches, 6-2, 7-5, 6-2. Quant à la Canadienne Eugénie Bouchard, demi-finaliste sortante, elle a été éliminée d'entrée par la Française Kristina Mladenovic en 2 manches, 6-4, 6-4. Enfin Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Les playoffs se poursuivent dans le championnat nord-américain de basketball.
Mais pas pour les Atlanta Hawks. Ils ont été éliminés hier soir, 118-88, par LeBron James et les Cavaliers, les nouveaux champions de la conférence Est qui sont ainsi qualifiés pour la finale de la NBA. Les Cleveland Cavaliers, qui ont eu 4 victoires consécutives sur Atlanta, attendent maintenant de savoir qui des Golden State Warriors ou des Houston Rockets sortira vainqueur du championnat de la conférence Ouest. Les Warriors de Steph Curry mènent la série 3-1 et ils jouent à domicile ce soir et pourraient se qualifier en remportant ce match.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un millier de Maliens sont descendus hier dans la rue à Bamako pour marcher de la place de la Liberté, c'est-à-dire du centre-ville, au monument de l'indépendance. Les marcheurs demandent la paix, la stabilité et le retour de la tranquillité dans leur pays avec l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation signé le 15 mai à Bamako par la partie gouvernementale et les groupes d'autodéfense. La marche a été organisée par la coordination des organisations de la société civile du Mali, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
La MINUSMA complice, France égale à MNLA, non à la recolonisation, non à la partition, au fédéralisme et à l'autonomie. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes et banderoles de cette grande marche.
C'est pour soutenir l'armée malienne, le gouvernement malien et surtout le peuple malien qui souffre aujourd'hui par rapport à l'injustice qui est en train de se passer au nord du Mali. Nous pensons que la MINUSMA est là pour le peuple malien, pour le Mali. Mais on est en train de voir le contraire, la MINUSMA est en train de travailler pour les MNLA et ce qui est leur contraire.
On est venu soutenir l'accord. On ne veut pas que notre pays soit divisé. On soutient notre président Ibrahim Boubacar Keïta pour que le travail qu'il est en train de faire pour le soutenir.
Ils étaient plus d'un millier de Bamakois. Une véritable marée humaine. Parmi les marcheurs, il y avait des élèves, des étudiants, des fonctionnaires, mais aussi des élus locaux. Ablaye Koné, conseiller municipal.
La paix que le président a tant réclamée et il a signé un accord. Nous voulons la paix pour le développement. Pour un élu communal, tu ne veux que la paix pour le développement de ta commune, pour le développement du Mali. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc nous, les élus, nous voulons la paix pour pouvoir développer le pays. Et sans la paix, sans le développement, rien ne peut marcher. Donc nous demandons la communauté internationale d'appuyer le Mali pour cette paix.
Anasser Aguirissa, chercheur en gouvernance démocratique basé en France, il était de passage à Bamako.
Moi, je suis très heureux de participer à cette marche. Une marche pour appeler à la paix. Une marche pour un Mali indivisible sans fédération, une marche pour aider, pour adhérer au projet d'accord d'Alger. Il est important que tout le monde sache que c'est l'espoir qu'il apporte pour le Mali et nous devons tous aller de l'avant, quels que soient les bords politiques. Et ça, c'est très important, indépendamment des bords politiques. Au Mali, on doit savoir aujourd'hui qu'on doit aller vers cette unité nationale.
Pour ce fonctionnaire qui a battu les pavés, il demande aux Maliens d'être vigilants car la communauté internationale est venue aider le Mali à sortir de la crise. Docteur Moussa Doukou.
Alors moi je dirais que la communauté nous suivra lorsque nous sommes devant. Sans faille, lorsque nous sommes devant, on fait notre travail, la communauté nous suivra. Elle n'a pas le choix. Et c'est ça le plus important pour cette communauté. Jusqu'ici, je dirais, elle est avec nous, avec notre volonté. Mais sans notre volonté, ça ne va pas toucher. Donc tout dépend de nous-mêmes pour entraîner la communauté à entraîner dans cette paix.
Cette grande marche qui a été organisée par la coordination des organisations de la société civile a été suivie dans certaines villes comme Ségou et Sikasso. Les autres régions s'apprêtent à leur emboîter les pas. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur le drame de l'immigration en Méditerranée. Les naufrages ont déjà fait des milliers de morts. Comment l'Union européenne peut-elle régler le problème? Faut-il un plan robuste contre les trafiquants de migrants? Et l'Union africaine doit-elle agir également? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Niger, 38 organisations de la société civile appellent à une marche le 2 juin à Niamey pour exiger la libération immédiate de deux de leurs leaders. Moussa Tchangari, de l'association alternative Espace Citoyen, est accusé de complicité avec Boko Haram et Nuhu Arzika, du Mouvement pour une citoyenneté responsable, est accusé d'atteinte à la sécurité nationale. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey.
Refusons d'accepter que nos camarades gardent prison sous de fallacieux prétextes parce qu'ils n'ont fait que émettre des avis sur des chaînes de radio et de télévision. En matière de délit de presse chez nous, aujourd'hui, c'est dépénalisé pour avoir émis des avis, pour seulement avoir, donc le cas de Nouhou, exigé à ce que les forces de sécurité soient mises dans les conditions pour pouvoir combattre les terroristes nous ne pouvons pas considérer que c'est lui qui va être accusé d'atteinte à la défense nationale. Il n'a fait qu'appeler à un renforcement du dispositif nigérien de lutte contre Boko Haram.
Moussa Tchangari, que vous connaissez très bien, accusé de coopération avec Boko Haram.
Moussa a fait un rapport tiré de fait sur le terrain. Moussa a été voir des chefs traditionnels de la région de Kifa qui ont été interpellés et il a été pris dans ces conditions pour être accusé lui aussi de complicité avec Boko Haram. Comment comprendre que Moussa, un acteur de la société civile qui lutte depuis tout ce temps pour la démocratie et les droits humains depuis les années 90, puisse être lui se mettre en complicité avec Boko Haram? Pour nous, Moussa n'est pas coupable des faits dont il est accusé. Inch'Allah, la justice nous dira ce qu'il en est. Mais il est très urgent de libérer nos camarades.
Est-ce qu'il y a eu des suites après l'attaque de Boko Haram sur cette île du lac Tchad? On parle d'une centaine de soldats nigériens qui ont été tués.
Ça a été dramatique pour le Niger et le peuple nigérien d'assister à ce carnage que Boko Haram a eu à opérer sur l'île de Karanga. Et nous avions seulement exigé du gouvernement qu'il puisse mettre dans les conditions de pouvoir combattre Boko Haram, nos soldats, en les dotant de tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à mettre fin à cette maîtrise qui, aujourd'hui, déstabilise toute une région. Aujourd'hui, la région de Difa, il n'y a aucune activité dans cette région. Tous les commerces sont en faillite. Même les écoles sont fermées. Il y a des centres de santé fermés. Il y a des enseignants qui ont été obligés de fuir cette région. Pour nous, il est urgent qu'on puisse mettre les moyens nécessaires pour pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est une partie intégrante du territoire nigérien.
Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Le Tchad et le Cameroun affirment qu'un grand nombre de mines antipersonnelles ont été posées par des combattants de Boko Haram le long de la frontière camerounaise avec le Nigeria. Il s'agit donc d'un véritable danger à la fois pour les populations et les soldats, mais aussi pour le bétail. Une situation qui a poussé les deux pays à déployer des unités spécialisées de leurs armées respectives afin de détecter et détruire ces mines. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, présenté ici par Jacques Aristide.
La mission est périlleuse, mais les militaires tchadiens et camerounais ont donc décidé de conjuguer leurs efforts pour l'accomplir. Leur objectif, encercler la forêt de Sambisa, considérée comme l'ultime refuge de Boko Haram. La bataille est donc difficile dans cette zone où de nombreuses mines antipersonnelles ont été détectées. Ce qui fait que pour l'heure, il est encore impossible de complètement sécuriser la partie nord de la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mebengo.
Son Excellence Idriss Déby Itno a pris la décision pragmatique de venir aux côtés du Cameroun pour conduire cette guerre. Beaucoup a déjà été fait, même si beaucoup reste à faire. À mener cette guerre jusqu'à l'éradication définitive du groupe terroriste Boko Haram.
Mais cet assaut militaire contre la forêt de Sambisa n'est pas nouveau. Le mois dernier, l'armée nigériane a lancé des raids aériens contre cet endroit. Une offensive selon Abuja qui a pu lui permettre de libérer des centaines de personnes détenues en captivité par les insurgés. Toutefois, les militaires nigérians ont également concédé que les mines antipersonnelles ont entravé leur avancée dans cette forêt en vue d'éradiquer les islamistes du groupe armé. Les populations locales ne sont pas non plus à l'abri de ces mines, car beaucoup de villageois en ont été victimes, des mines qui frappent également leur bétail. Les habitants de la région ne se sont donc pas fait prier pour faire part de leur grief à ce sujet au commandant des forces camerounaises contre Boko Haram, le colonel Jacob Kodji.
Il contribue activement dans cette lutte en fournissant les informations utiles aux autorités compétentes.
Depuis ces deux derniers mois, le Cameroun n'a pas été confronté à des attaques de grande envergure de Boko Haram, à l'image de celles très meurtrières que le groupe a perpétrées par le passé sur le territoire camerounais. Évidemment, Yaoundé demeure éminemment prudent, car d'après des militaires camerounais, les mines antipersonnelles que les islamistes nigérians ont plantées tout autour de leur cachette sont destinées à dissuader les armées du Tchad, du Cameroun et du Nigeria d'avancer dans la forêt de Sambisa, le temps pour les insurgés de se remettre en ordre de bataille.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Les pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économique ont alloué l'an dernier moins d'un tiers de leur aide au développement aux pays les plus pauvres, dénonce l'ONG One dans un rapport. Elle appelle ces pays à allouer 0,7% de leurs richesses à l'aide au développement, conformément à l'objectif des Nations Unies. Pour des précisions, Nathalie Barge a joint Frédéric Broder, directrice de One France.
C'est tout à fait incompréhensible que l'aide vers les pays les moins avancés recule, parce que c'est là que l'extrême pauvreté se concentre. En fait, on estime que 43% de la population dans les pays les moins avancés vivent dans l'extrême pauvreté, contre 13% dans les autres pays en développement. Donc les financements devraient aller en majorité vers ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est une volonté affichée de beaucoup de pays, comme par exemple de la France. Mais malheureusement, les chiffres ne suivent pas. On a fait le calcul et on estime qu'il faudrait dépenser $500 par personne par an pour pouvoir fournir vraiment le strict minimum en services essentiels à la population. Donc on parle de l'accès aux soins, de l'accès à l'éducation primaire et secondaire, donc vraiment les services essentiels. Pour vous donner un exemple, le Libéria aujourd'hui n'a que $6 par personne par an que ce pays peut dépenser pour la santé et l'éducation.
Est-ce que l'on pourrait comparer aux pays occidentaux? Par exemple, combien est dépensé par personne par an au niveau de l'éducation et de la santé en moyenne?
Oui, on est à plusieurs milliers de dollars par an pour la plupart des pays de l'OCDE et même les autres pays en développement qui arrivent à dépenser autour de $2,000 par personne par an. Malheureusement, on a plusieurs pays parmi donc les pays les moins avancés qui dépensent moins de $150 par an par personne. Nous, on estime qu'il faudrait $500 par personne par an et c'est quelque chose qui peut tout à fait être financé. Donc One, dans son rapport, préconise différentes mesures. Donc, il y a bien sûr l'aide publique au développement qui doit aller vers les plus vulnérables, les plus pauvres. Il y a aussi les pays, même les pays en développement, qui doivent lever plus de recettes fiscales et réorienter cet argent vers les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation. Et en même temps, il faut bien évidemment soutenir la croissance dans ces pays, mais pas n'importe quelle croissance, mais la croissance inclusive qui permet à créer, par exemple, des emplois. Donc on préconise, par exemple, des investissements dans le secteur de l'agriculture, qui est un secteur qui crée 11 fois plus d'emplois que d'autres secteurs économiques en Afrique. Et dernière mesure que One préconise, c'est de lutter plus efficacement contre la corruption et l'évasion fiscale au niveau international et national. Et là, on parle d'une responsabilité partagée entre les pays du Sud et du Nord.
Frédéric Roger, directrice de One France, jointe à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montoux sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montoux, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. 9 to 5.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.